C'est fini par arriver, Bart. T'as perdu la boule.
Dynamiquienne, dynamiquien, depuis le temps que vous nous connaissez et que vous nous écoutez, oui, je veux toujours croire que nous ne faisons pas ça pour rien. Vous savez que je démarre toujours cette émission par une introduction travaillée qui ferait pâlir ChatGPT de jalousie. Oui, je veux toujours croire que j'ai deux longueurs d'avance sur cette foutue intelligence artificielle de merde. Au travers de cette mise en scène et ce monologue interminable, l'objectif est de poser le cadre de ce que vous allez entendre. Ayant baigné dans la culture Canal+, qui a importé l'infotainment dans le paysage audiovisuel français, j'essaie toujours d'apporter de l'humour et de la légèreté dans les sujets traités, sans jamais négliger l'envie de vous faire découvrir des choses qui, je l'espère, seront pertinentes et captivantes. Cependant, je dois vous avouer que pratiquer l'humour avec le thème que nous avons choisi serait un exercice périlleux. Il suffit de voir les réactions suscitées par un sketch de l'émission Le Grand Cactus sur Tipeee, où des internautes par milliers dépourvus de second degré et d'humour ont pris d'assaut leur compte X et Instagram pour hurler à la discrimination et réclamer des excuses. Face à la pression des réseaux sociaux, la RTBF a été forcée de présenter ses regrets et a encore une fois donné raison à la génération ouin-ouin qui n'accepte plus la moindre secousse. Malheureusement, de nos jours, on réfléchit à deux fois avant d'écrire ou de dire quelque chose, car il ne faudrait pas heurter la sensibilité des uns et des autres, ou se mettre une communauté en quête de buzz à dos. De plus, il est vrai que le sujet dont nous allons parler nous concerne tous. Il a été mis en lumière durant le confinement, où nos nerfs se sont retrouvés dans un sale état. Durant cette période où nous avons été privés de liberté et d'interaction humaine, beaucoup se sont sentis tristes, perdus, abandonnés, à bout de force, seuls, ou tout cela à la fois. On a profité de cette parenthèse dans nos vies dont on se serait bien passé pour faire le point sur nous-mêmes. Face aux ravages psychologiques causés par l'isolement, ainsi que le manque d'interaction sociale et de contact humain, le sujet de la santé mentale a commencé à être débattu. On s'est rendu compte que cette chose que nous avions beaucoup trop négligée dans le passé devait devenir une priorité à l'avenir. Dans le monde de l'art et de la culture, il n'a pas fallu attendre le confinement pour que le sujet de la santé mentale soit traité. Cinéma, séries, télévision, musique, littérature, on se sert souvent de ces médiums pour exprimer et partager nos périodes les plus sombres. C'est à croire que la tristesse et le mal-être sont les thèmes universels qui rassemblent bien plus qu'on ne le croit. La déprime, l'envie de rien, le spleen, le nihilisme, la dépression, le suicide, il existe autant de problématiques ou de points de vue que d'œuvres sur le sujet. L'art a toujours été un exutoire pour ceux qui le pratiquent, une façon de s'exprimer et de mettre des mots sur des mots. Grâce au monde de la culture, le grand public a pu s'identifier à certaines situations, exprimer ses émotions, mais surtout prendre conscience de l'importance d'un tel sujet, devenu la priorité de la nouvelle génération et des générations futures. Tout ça pour dire que la santé mentale est quelque chose d'assez récent, qu'il faut prendre avec des pincettes. Mais vous connaissez le leader suprême, il adore la provocation. Ne dit-on pas que c'est en transgressant que nous marquons les esprits et avançons dans les sujets majeurs ? Vous n'imaginez pas le nombre de débats et de prises de conscience grâce à l'humour. En tout cas, je le crois profondément. Alors, même si ça ne semble pas évident, nous allons essayer d'apporter de la légèreté et de la bonne humeur tout en vous sensibilisant à cette cause cruciale pour les générations à venir. Et cette semaine, au cours d'une programmation spéciale, nous allons parler de la santé mentale. Et vous le savez, nous adorons jouer avec le double C de complètement culte et ça tombe bien, cela nous permet de faire un lien avec ces bonbons magiques que l'on prend pour se sentir euphorique et ne pas finir chez les dingues. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement complètement comprimé. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, les joyeux lurons qui vont vous accompagner. Il aime le football, comment ne pas se sentir déprimé avec un show aussi catastrophique, Mathis.
Salut, salut.
Il est à l'origine de l'expression suivante qui ne cesse de répéter tellement il en est fier, mieux vaut prendre ses jambes à son cou que d'avoir la corde au cou, Maxime.
Alors je n'ai jamais dit cette petite phrase, mais bonjour, bonjour à tous.
Et enfin, sa santé mentale est liée au résultat de l'extrême droite. Plus c'est haut, plus son moral est bas. Autant vous dire qu'en ce moment, ce n'est pas la joie. Arnaud.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Il faut rester optimiste, malgré tout.
Allez, ne perdons pas de temps. Au sommaire de complètement comprimé, beaucoup de choses pour un temps limité. Le thème de la santé mentale sera la ligne conductrice de notre programmation spéciale. Nous vous parlerons de la série Netflix 13 Reasons Why, qui est considérée comme l'un des premiers grands succès de la plateforme. Le conseil de classe aura comme élève la star mondiale Selena Gomez. Le versus opposera la pendaison et la roulette russe. Quelle est la meilleure façon de partir ? Attendez, qu'est-ce que ça fout là, ça ? Non, oubliez. Voilà ce qui arrive quand je demande à ChatGPT de faire de l'humour noir. Non, c'est faux, ça vient de moi, je vais assumer. Dans la séquence, dans les bacs, nous reviendrons sur le premier album de Georgie Nico, première consultation, qui aborde des sujets inédits pour son époque dans le milieu du rap français. Niveau cinéma, nous avons vu le film Happiness Therapy avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence en tête d'affiche. Nous vous donnerons notre verdict sur cette comédie romantique signée David O. Russell dans la séquence Vidéo Club. Le regretté, l'unique Robin Williams, ce comédien au talent immense parti trop tôt, sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et pour conclure, le débat de la semaine portera sur le lien entre la santé mentale et le milieu artistique. La majorité des artistes se servent de leur vécu et traumatisme pour créer des œuvres inspirées et universelles. Est-ce que être artiste signifie forcément qu'on est malheureux et torturé ? Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, on a l'habitude de démarrer par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes. Ou presque.
One day I'll pass this on to you.
Just like your mental illness?
Yep, just like my mental illness.
Vous connaissez la chanson, c'est votre moment, votre carte blanche. Vous parlez de ce que vous voulez. Coup de cœur, coup de gueule, recommandation, critique, news, une pensée, quelque chose que vous avez envie de partager à ceux qui nous écoutent en podcast. C'est votre instant, mais cette semaine, c'est un tour des chroniqueurs assez particulier puisqu'on va parler de la santé mentale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai besoin d'une recommandation. L'émission s'appelle Complètement Comprimé. Et entre-temps, j'ai réfléchi à une nouvelle idée pour rester dans le thème de l'émission, le côté satirique, machin. Et j'ai pensé à un autre titre, mais j'ai peur que ce soit mal pris, donc j'ai besoin de votre avis éclairé sur la question. J'ai réfléchi à un autre titre complètement crazy. Est-ce que c'est un titre qui peut heurter la sensibilité des gens, selon vous ?
Alors moi, je suis pour le heurtage. J'adore faire de l'humour noir, c'est mon gros kiff, donc complètement crazy colle parfaitement avec cette émission, mon cher famille.
Ouais, je dirais que complètement crazy, ça va un peu dans la dynamique de notre émission.
C'est le cas de dire, on est sur Dynamic One.
Let's go.
Et puis de toute façon, le monde est complètement crazy. Donc,
La voix de politologue, on aime beaucoup.
Valide-t-on complètement crazy ?
Oui.
Donc complètement valide. Comprimé se transforme en complètement crazy. Voilà, c'est validé. Donc maintenant, c'est quoi votre rapport à la santé mentale ? On va commencer avec Maxime.
Bah écoute, voilà, je suis pas médecin, donc c'est assez
Personne
compliqué.
N'est médecin
voilà,
ici.
Donc avoir une.
Mais on va en tout cas juste donner notre ressenti par rapport à ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Exprime-toi.
Ben moi, j'avais une assez chamboulée dans ma famille. Du coup, moi, j'ai vu aller d'assez près ce que pouvait faire parfois les dégâts des problèmes psychologiques. Ça pouvait aller de la schizophrénie, tout simplement des problèmes de dépendance parfois aussi qui vont justement impacter ton mental. Du coup, voilà, moi, j'ai vu ça parfois de près. C'est alarmant. Ça peut, une personne très gentille peut du jour au lendemain se transformer en quelqu'un d'assez particulier ou particulière sans approche scientifique. J'en ai déjà fait les frais.
Bon, si je peux quand même m'exprimer sur ce sujet, je vais vous livrer un peu de mon vécu passé. Si je devais donner une période où j'ai été confronté, on va dire, à ce qu'était la santé mentale, je pense que c'était le confinement. Le confinement, ça a heurté beaucoup de gens.
Ouais, bien sûr.
Moi, personnellement, je le dis, je l'ai très mal vécu, ce confinement. Moi, je suis quelqu'un d'assez sociable. J'aime bien parler aux gens. J'aime bien avoir des interactions humaines, normales, sans distanciation, sans masque. Et moi, ce qui m'avait vraiment heurté à l'époque, c'est pas forcément la situation en soi, parce qu'on était tous confrontés à la même situation, on pouvait rien y faire, il fallait attendre, c'est comme ça. Moi, c'était plus la réaction des gens autour de moi. C'est-à-dire que les gens voyaient que je vivais très mal la situation, et on me disait « Oh, mais arrête de te plaindre, tu te rends pas compte, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux, toi, t'es un privilégié, t'as qu'à attendre comme tout le monde, t'as pas honte de dire des choses pareilles. » Et ça, moi, ça m'a fait beaucoup de mal à l'époque. Parce que, genre, ma souffrance, ce que je ressentais à l'époque, ne valait, rien. Et c'est ça qui me dérangeait vraiment. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte, en tout cas au niveau des débats et sur les plateaux télé, qu'il y avait une grosse partie de la population qui prenait sur elle et qui n'osait pas s'exprimer parce qu'ils ne voulaient pas, justement, opprimer les gens qui étaient dans les hôpitaux et qui avaient besoin de soins. Mais je pense que toutes les souffrances se valent et qu'il fallait écouter tout le monde. Et vu les politiques qu'ils avaient menées, bah, ça a mené, je pense, à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire toute une génération qui essaye de se réparer, qui essaye de trouver des réponses à leurs questions. Et Ouais, non, ça a fait clairement des ravages, le confinement. Est-ce que toi, pendant le confinement, non, est-ce que tu as vécu quelque chose?
C'est intéressant parce que par rapport à toi, en fait, le confinement, j'ai super bien vécu.
Ouais, moi aussi. Genre, en fait, j'avais mes trois meilleurs potes qui étaient mes voisins, donc on se regardait tout le temps dans le jardin ensemble.
C'est la meilleure période de ma vie. Je sais, c'est très bizarre à dire, mais alors que le monde, ça allait pas, et même du plan santé, c'était assez catastrophique. Mais c'est parce qu'en fait, j'étais en réto. Et j'en avais marre des secondaires, et j'ai eu mon diplôme comme ça, et j'étais chez moi toute la journée. Et ça m'a permis de faire des choses que je n'aurais jamais fait. J'ai repeint ma chambre, j'ai fait un potager, j'ai fait du vélo. Mais j'étais Remco Evenepoel, hein, vraiment, je faisais 100 km par semaine, c'était énorme, mais vraiment. Sinon, du coup, pour moi, la santé mentale, ça veut plus dire un peu... Tu sais, la santé mentale, c'est un peu les pressions que tu subis au quotidien. Dans la vie en général, tu vois, t'as une certaine pression économique de pouvoir... arrondir les fins de mois. Puis t'as la santé mentale, les pressions que t'as au boulot, etc. Pour moi, ça c'est plus la santé mentale, c'est ton quotidien et ce que tu ressens au quotidien. Et on sait qu'on est un peu dans une société où on est dans le métro boulot dodo.
Et toi, il y a des moments où tu t'es senti oppressé, t'as eu des moments de down, t'en pouvais plus.
Si, comme tout étudiant, bien sûr, les blocus, les examens. Lorsque t'es un peu en manque de thunes et tout, tu te dis comment je vais faire pour subvenir à mes besoins. Donc c'est un peu chaud, mais en vrai, je vais pas me plaindre. Je t'avoue que personnellement, ça va. Donc, je sais qu'il y a des gens qui subissent plus que moi. Donc, voilà, je vais pas trop me plaindre.
Tu relativises.
Exactement, c'est ce qu'il faut important. Se dire.
Sinon, parce puis que comme dirait Balou, il en faut peu pour être heureux.
Exactement. Et puis, si on s'abat sur son sort, on n'avance pas, quoi.
Ouais, et moi, ça m'a beaucoup changé la vie. Ça, ouais. En règle générale, c'est relativiser.
Il faut.
Mais sinon... ça m'a changé la vie d'une manière. Tu sais, par exemple, avant, genre, j'étais malade, je devenais fou. Puis je me disais par exemple, pense un peu à ces... Non mais vraiment, c'est un peu chiant, mais c'était genre par exemple, je me disais, pense un peu à ce qui se passe en Palestine, t'as des gamins, ils ont plus à bouffer depuis 2 jours, tu vois, des trucs comme ça par exemple. Du coup, je me disais, vas-y, ferme ta gueule et t'as juste un rhume, quoi. Et vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé la vie.
Le politologue, Arnaud.
Bah, moi, le rapport à la santé mentale, c'est super important. C'est quelque chose qui m'a fait évoluer en tant qu'être humain. J'ai beaucoup réfléchi. On réfléchit, on mûrit, on apprend de ses erreurs, on relativise, comme Maxime l'a dit. On se pose des questions et on essaie de prendre du recul sur ses problèmes. Et puis, on se dit toujours qu'il y a toujours pire, comme tu as dit, Maxime. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. La santé mentale, c'est quelque chose de très important parce que je me rends compte que, avec le Covid, notre génération, on se rend compte que y a pas mal de jeunes qui sont au fond du gouffre, mais qui font semblant d'être bien, mais quand ils rentrent chez eux, ils font des crises d'angoisse.
T'as l'impression qu'on les écoute ? Qu'il y a une prise de conscience ?
C'est-à-dire que la santé mentale, c'est un sujet tabou. Il y a des cultures, il y a des environnements sociaux qui ne sont pas propices à la discussion.
Si on rentre sur ce terrain, la santé mentale, c'est un concept totalement européen.
C'est un concept...
Aller en Afrique et parler de la santé mentale...
Justement, je voulais en revenir à ça. L'Afrique, la communauté noire...
Le Maghreb. Aller dire à une personne qui habite au Maroc, je vais pas bien, je vais voir un psy, ils vont vous juger et ils vont vous dire, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça. Pour eux, quelqu'un qui va voir une autre personne pour parler de ses problèmes... Peut-être pas fou, mais il s'est beaucoup trop occidentalisé. C'est ça qu'ils vont dire.
Exactement, il est mal vu. Et en fait, 50 Cent avait dit quelque chose en interview qui était super intéressant. Il disait, nous les Noirs, on n'a pas le temps d'être déprimés.
Dis-le en anglais maintenant.
Mais vous avez compris. Mais c'est super intéressant. Enfin, ça révèle quelque chose de problématique aussi. C'est-à-dire qu'au plus t'es pauvre, au moins t'as le temps pour toi.
Quand le temps de te plaindre surtout. Ils se plaignent jamais. Hein.
Tu peux pas te plaindre parce que tu dois remplir ton frigo, tu dois payer les factures, tu dois te démener pour réussir dans la vie.
Alors du coup, une petite question provocatrice. Est-ce que la santé mentale, c'est un problème de riches ?
Oui et non.
Oui et non.
Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment subi des choses. Moi, je sais que j'ai des amis, par exemple, je pense à mon meilleur pote, qui est Bruno, par exemple, qui a subi beaucoup de moqueries. Ça a des répercussions, des répercussions à vie. C'est juste sur ton contact social avec les gens. J'ai aussi une amie qui s'appelle Sabrina. Voilà, je fais un gros big up à elle. Ou par exemple, elle a beaucoup été aussi harcelée. Et maintenant, tu sais... C'est une anecdote, hein, mais par exemple, elle fume et on lui a refusé de lui vendre un paquet de cigarettes. Tu vois, elle voulait pas que moi j'aille lui parler parce que dès qu'elle se fait éjecter, même si le vendeur, ça avait pas une mauvaise intention de base, c'est juste qu'il pouvait pas la vendre, par exemple. Et elle va pas oser faire des choses, elle va avoir peur, elle va le prendre pour elle, elle va se renfermer. Et donc parfois, c'est des gens qui ont juste, des bêtes trucs anecdotiques, ça peut avoir des répercussions à vie. Donc la santé mentale, ça touche pas seulement les riches, je crois que c'est un concept universel.
C'est un concept universel et ça dépend aussi de nos sensibilités, de notre personnalité. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont une capacité à prendre du recul sur certaines choses et il y en a d'autres qui sont hyper sensibles, hyper émotifs, qui vont prendre tout personnellement et qui vont trop réfléchir à des choses qui peuvent paraître futiles pour nous ou pour d'autres. Quand tu es bien entouré, ça aide à devenir une meilleure personne et à évoluer en tant qu'être humain. Et ça, je l'ai remarqué ces dernières années, en fait, avec le Covid, après le Covid. C'est-à-dire que le Covid, moi, ça, je l'ai bien vécu parce que j'ai une bonne famille, j'ai une famille stable, Dieu merci. J'ai pu me poser, réfléchir sur moi-même, faire mes études à côté, parce que bon, l'école, elle n'était pas, en pause non plus. On avait nos cours à distance. Mais ça m'a permis de prendre du recul sur tout ce qui se passait, voir ce qui se passait ailleurs, dans d'autres pays, comment ils géraient la crise sanitaire. Et donc, tu relativises, tu fais des parallèles et tu te dis que est-ce que ça en vaut vraiment la peine de te casser la tête pour ceci ou pour cela. Quand je suis sorti du confinement, je me suis posé, je me suis dit, mais faire un plan sur ta vie, sur ce que tu veux, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau familial. Et puis, tu te rends compte que en fait, l'environnement social dans lequel tu évolues, c'est la chose la plus importante de ta vie, en fait.
Ah, bien sûr.
Et c'est ce qui...
Ça m'a sauvé la vie aussi.
Ouais. Moi aussi, ça m'a sauvé la vie. Genre, si je n'avais pas pris certaines décisions qui sont dures à prendre, mais qui sont essentielles pour évoluer en tant qu'être humain, je pense que je ne serais pas la même personne. Quoi.
Ah, donc, moi non plus, clairement pas.
Ça, c'est sûr.
Mais rassurez-moi, tout va bien maintenant.
Ah non, oui. Super. Super. Moi, je n'ai jamais été aussi apaisé. Et puis, je relativise, comme Maxime dit, quand tu relativises, quand tu prends du recul et que tu dis, c'est pas grave, il y a pire, ainsi va la vie.
Ouais, je suis exactement comme toi. Après le Covid, je me suis dit, on prend les choses étape par étape. Plus rien à foutre, plus de pression, c'est fini. J'ai plus envie de me retrouver dans des états de stress permanents. Moi, le truc qui vraiment m'avait fait le plus peur pendant le Covid, c'était l'après. Je me suis dit, est-ce qu'on va retrouver notre vie d'avant? Est-ce qu'on va devoir vivre avec des plexis, des masques, des distances? Est-ce qu'on va retrouver cette chaleur humaine qu'on avait auparavant? C'est ça, c'était ça ma hantise. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'en fait, tout était exactement comme avant, voilà, je suis redevenu serein. Et maintenant, quand il m'arrive une galère, je me dis, oh, pff, je m'en fous, on trouvera bien une solution.
J'ai l'impression que la période du confinement pendant le Covid a permis à plein de gens de se rendre compte de la chance qu'ils avaient, de se rendre compte qu'en fait, bah, ils sont dans une société où finalement
tout va bien, bien sûr.
Tout va bien.
Mais de se rendre compte surtout que ce qui doit primer, ouais, c'est leur bien-être.
Exactement.
Combien de gens ont changé de boulot? Combien de restaurateurs ont décidé d'arrêter parce que c'était des rythmes insoutenables et effrénés? Il y a plein de gens pendant le confinement qui se sont rendus compte, ah ben c'est ça en fait, faire une grasse mat, c'est ça se reposer, c'est ça avoir une vie. Et du coup, ça a vraiment rebattu les cartes pour l'avenir et pour la société. Ouais.
Bien sûr. La liberté, ça n'a pas de prix de toute façon.
Mais pour vous, par rapport à la santé mentale, il y a eu un avant et un après Covid. Ça, c'est, c'est certain, ça.
Moi, j'ai juste l'impression qu'il y a eu une pause, c'est tout. Hein.
Moi, je trouve qu'il y a une démocratisation de la santé mentale. Enfin, en fait, les gens en parlent depuis le Covid.
C'est ça, en fait, on en parle davantage.
Ouais. Oui. Ouais, on en parle beaucoup plus.
Moi, je pensais vous
même,
disiez si moi
même dans le sport
avant,
en général, avant, on n'aurait jamais cru qu'un sportif allait se plaindre sur la santé mentale. Et finalement,
petite passe des pour la mémoire médiatique,
exactement,
j'ai l'impression.
Mais finalement, il y a de plus en plus de sportifs qui en parlent et c'est là que tu te rends compte que bah, ça concerne tous les milieux.
Ça, c'est super intéressant ce que tu dis. C'est que l'Occident a connu une crise sanitaire, ce que les pays du Sud peuvent vivre au quotidien. Et du coup, les peuples du Nord ont vécu ce que les peuples du Sud peuvent vivre au quotidien. Les crises de vaccins, les famines, les épidémies. On voit ça à la télé, la famine.
Ouais, bien sûr, c'est très loin de nous. Quoi.
C'est très loin de nous. Nous, on a la sécurité sociale, on a les bons hôpitaux. Et du coup, les pays du Sud nous envient pour notre système de santé, même s'il n'est pas parfait. Et du coup, on peut se prémunir de certaines catastrophes, en fait. Et là, pour la première fois, ou depuis très longtemps, on va dire, ça nous arrive à nous, en direct, en fait. On en est touché. Du coup, ça nous affecte. On ne peut plus avoir cette vie d'occidentaux. On ne peut plus sortir, on ne peut plus aller en terrasse.
Et du kiffer.
Coup, ça, kiffer la vie, profiter de la vie.
Sortir au Murano.
Ouais, exactement. On ne peut plus faire ça. Faire des snaps, on ne peut plus faire ça.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet et on vous a donné notre définition de la santé mentale. On espère que cela vous sera utile et que vous vous retrouvez dans nos témoignages. En tout cas, le ton est donné pour cette émission spéciale complètement crazy et on enchaîne avec... La première rubrique, c'est arrivé chez Netflix. Cela fait 10 ans que Netflix a débarqué en Europe et dans le reste du monde. Aujourd'hui, la plateforme de streaming domine le marché de la SVOD avec près de 270 millions d'abonnés. Si Netflix peut se permettre de proposer des séries, des films et des documentaires à l'appel, c'est grâce à ses premières productions appelées communément les Netflix Originals, qui, par leur qualité, leur casting et leur approche ambitieuse, ont réussi à toucher une large audience pour s'installer progressivement et durablement comme un acteur crucial dans la production audiovisuelle. House of Cards, Narcos, Stranger Things, The Crown, BoJack Horseman, Black Mirror, Daredevil ou encore The Punisher, elles ont toutes contribué au succès et à la montée en puissance de Netflix. Mais en 2017, une série a rencontré un immense succès auprès des jeunes cibles, 13 Reasons Why. Diffusée entre 2017 et 2020 sur la plateforme et produite entre autres par Selena Gomez, comme quoi tout est travaillé dans cette émission, elle devait au départ être un film avec la chanteuse dans le rôle principal. Et au final, le projet s'est transformé en série avec Dylan Minnette et Catherine Langford en tête d'affiche, du moins pour la première saison. Traitant de l'harcèlement scolaire, du mal-être et du suicide, 13 Reasons Why est parvenu à toucher les jeunes qui se sentent concernés par ces sujets prioritaires pour les nouvelles générations. 13 Reasons Why raconte l'histoire de Clay, un jeune garçon qui reçoit une boîte à chaussures remplie de cassettes venant d'une de ses amies, Anna Baker, récemment suicidée. Sur les cassettes qui doivent être passées de main en main, Anna explique que chacun a joué un rôle dans sa mort et donne les 13 raisons expliquant son passage à l'acte. Donc avant de parler de la série en elle-même, est-ce qu'au moment de sa sortie, vous aviez entendu parler de 13 Reasons Why? Est-ce que c'est une production qui vous avait marqué à l'époque, Mathis?
Ouais, je me rappelle à l'époque, j'étais encore en secondaire quand c'est sorti. Et je me rappelle que tout le monde regardait ça et ça faisait beaucoup, beaucoup parler. Donc c'est vrai que c'est assez marquant, 7 ans après. Je me rappelle encore de cette époque, donc c'est assez marquant.
Ouais, ça avait cassé Internet, ça avait cassé Netflix, tout le monde en parlait. C'est aussi une série qui a fait énormément réfléchir, vu que ça a beaucoup démocratisé le harcèlement, ça se concentre essentiellement là-dessus. Donc il y en a beaucoup qui en parlaient, qui se remettaient en question, donc ça a apporté beaucoup de bon, je trouve, cette série.
Et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de 13 Reasons Why? On va commencer avec Arnaud.
Pour moi, ça a été une série qui a marqué l'histoire de Netflix, en fait. Et moi, ça m'a marqué particulièrement parce que ça abordait des sujets qui étaient en adéquation avec notre âge. Moi, j'étais pas lycéen comme Anna Baker, Clay...
On était déjà universitaires, toi et moi.
C'est vrai qu'on était universitaires. Mais ça m'a quand même touché par la violence, par la manière dont ils abordent le sujet du suicide, des drogues, de l'addiction, de l'harcèlement et de la santé mentale plus généralement. C'est une série qui a marqué toute une génération, quoi.
Ce serait quoi pour vous les qualités de cette production Netflix, Maxime?
Déjà, le jeu d'acteur. Je trouve que le personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle,
Clay,
il a fait le taf. Ensuite, c'est des thématiques très profondes. Donc à partir du moment où tu arrives à scénariser des problèmes sociaux d'une telle façon, moi je trouve que
c'est un traitement mature, ou est-ce que, vu les cibles que Netflix essayait de toucher, eh bien c'est un traitement, on va dire, teenage, pour adolescents?
Ah non, je ne suis pas d'accord. Moi, par exemple, ma maman, elle avait regardé la série, et même de son côté, là, on ne la regardait pas spécialement ensemble, elle a surkiffé, tu vois. Donc je pense que c'était plus grand public, ça ne ciblait pas spécialement les étudiants, ou en règle générale, sûrement que de base, le public cible, c'était même les écoliers en règle générale, pour faire bouger les choses, mais ça avait des thématiques tellement profondes, c'était assez gore aussi à regarder. Du coup, il y a des scènes assez heurtantes. Donc pour moi, c'était pas seulement restreint... En tout cas, même s'il le voulait, ce n'était pas seulement restreint aux écoliers.
Est-ce qu'on aborde correctement le thème de la santé mentale dans 13 Reasons Why?
C'est bien abordé dans le sens où c'est bien d'aborder un sujet, mais si tu l'abordes mal, avec les mauvais acteurs, le message, il peut passer
à côté,
inaperçu, en fait. Et du coup, le jeu d'acteur est tellement bien fait, ce qui fait qu'on est, on est scotché sur toute l'intrigue pendant toute la série, pendant toutes les saisons. C'est pour tous les âges et pour toutes les générations. Moi, je l'ai regardé, on était universitaires, tu l'as rappelé. Le cadre spatio-temporel, c'est au lycée, avec des étudiants, enfin des adolescents, et voilà quoi. Mais c'est bien fait, et du coup, on peut
s'identifier, se retrouver. Alors, au moment de la diffusion, le personnage d'Anna Baker est devenu l'emblème d'une génération qui se sentait mal dans sa peau. On a repris ses phrases, on a reproduit des scènes de la série, ce qui aurait pu être de la sensibilisation. C'est un peu transformé en tendance sur les réseaux. Est-ce que pour vous, le public a réellement compris le message de 13 Reasons Why?
Mais oui, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui est en tout cas une série qui a fait beaucoup parler et qui a remis en question le comportement de beaucoup de personnes.
Au travers des trends, est-ce qu'il n'y a pas eu une communication morbide, maladroite, de faire des tendances, des challenges autour d'un sujet aussi lourd que le suicide ? C'est pas un peu à côté de la plaque ?
Mais moi qui n'ai pas vu la série, pour être franc avec vous, justement, j'avais entendu parler de 13 Reasons Why comme vous tous, et vous l'avez regardé. Et avant de venir ici, je n'avais pas compris que c'était une série sur la santé mentale, etc. Donc je pense que justement ce que tu dis, c'est vrai, c'est que finalement les gens n'ont pas compris le vrai sens de cette série, puisque s'ils en font des traînes, etc., c'est que si on va dire que je suis le grand public, je n'ai pas compris le message qu'on devait faire passer. Donc je pense qu'ils auraient emprunté un peu leur objectif.
Arnaud, qu'est-ce que tu en penses, toi, cette question ?
Il y a des faits sociaux, peu importe la réaction du public ou de la société, il faut l'aborder. Même si la communication peut paraître maladroite, moi, je ne l'ai pas vu. J'ai vu des musiques, des bandes-sons, j'ai vu des extraits sur les réseaux sociaux et je ne trouvais pas que c'était morbide ou quoi.
Non, mais la fameuse scène d'Anna Baker dans la baignoire.
Dans la baignoire. Mais oui, mais
le
c'est
nombre
gênant.
De fois que les jeunes ont reproduit ça, pardon, ce n'est pas drôle et ce n'est pas censé être une tendance. Il n'y a pas à reproduire ça, en fait.
Oui, mais bien sûr, mais ça, c'est Internet. Donc, on ne contrôle pas Internet. Je ne pense pas que c'était le but.
Le principal, c'est que le message soit passé.
Voilà, ce n'était pas le but. C'était pas le but de
Parce que tu penses qu'en reproduisant ça, le message est passé ?
Mais non, mais après, ça, c'est des petits cons. Enfin, pour moi, il ne faut pas en faire une... C'est vrai, ceux qui font des trucs comme ça, c'est des petits cons, mais il ne faut pas en faire une généralité. Pour moi, le message était clair, le message était beau, il y avait une ligne directrice
profonde. Je suis d'accord,
profonde.
Je fais l'avocat du diable. Hein,
ouais, voilà,
pas,
ouais. Et puis après, tu auras toujours, tu sais, tu peux faire le plus beau film au monde, par exemple La Ligne Verte, il y aura toujours trois cons qui vont mettre une photo un peu insensée sur les réseaux.
Alors là, par contre, on va rentrer dans la partie la plus intéressante, car durant la diffusion, une polémique a éclaté par rapport à la scène où l'on voit la protagoniste Anna Baker se suicider. Des associations et vierges effarouchées, disons le terme, sur les réseaux sociaux ont accusé Netflix de styliser le suicide et d'inciter à passer à l'acte. Donc résultat, la plateforme a décidé de supprimer la scène en question. Est-ce que vous comprenez cette polémique ? Est-ce que surtout, est-ce que vous comprenez la décision de Netflix ?
Mais faut arrêter avec ce genre de trucs. Moi, je suis désolé. C'est une des choses qui m'énerve le plus dans cette société. C'est que même quand tu veux aborder quelque chose d'important, un fait social qui touche aujourd'hui le grand public, qui touche tout le monde, on va toujours trouver un truc pour te casser les couilles. Vraiment, moi, c'est un truc, ça a l'art de m'énerver. T'as le droit de rien faire,
c'est censé être la scène la plus importante de cette saison. Et ils l'ont supprimée. Pour moi, c'est un non-sens. C'est de la censure à ce niveau-là.
Mais c'est bien sûr. C'est une stupidité de mettre des pressions comme ça. C'est aberrant, quoi.
Et on a parlé des qualités de la série, mais moi, je vais vous parler d'un énorme défaut. Il y a eu 4 saisons, et seule.
Une seule suffisait.
Alors que la saison 1 se suffisait à elle-même, Netflix a un peu tiré sur la corde et a continué la production de 13 Reasons Why avec un total de 4 saisons. Alors, si la deuxième saison se concentrait sur le procès lié au suicide d'Anna Baker, là, pour le coup, c'était intéressant, ça faisait sens, donc pourquoi pas. Mais par contre, les saisons 3 et 4, ça part dans des intrigues, mais complètement à côté de la plaque. Ça part vraiment dans une série pour adolescents qui se passe dans un lycée. Est-ce que les 3 saisons qui ont suivi ont nui à la réputation de 13 Reasons Why et de son aura ? C'est un peu comme Casa de Papel. Les 2 premières parties, elles étaient très bien.
Comme
Sex
Education,
après,
par exemple.
Voilà, qu'on souffle. Hein.
Est-ce que c'est pas un peu le cas des séries actuelles, de toutes les séries actuelles
Même des films. Ouais,
ça, c'est la société de consommation. C'est-à-dire qu'on veut consommer vite et bien. Et on prend pas le temps de profiter du moment présent, du produit.
Non, s'il y a ça, mais c'est à se demander si les producteurs ont compris le principe même de la série. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, le message qu'ils ont essayé de diffuser auprès du public, auprès de l'audience, ça passe à la trappe. Parce que qu'est-ce que tu essayes de montrer en faisant une saison 2, une saison 3, une saison 4 ? C'est qu'au final, tu ne penses qu'au pognon, c'est tout.
On ne sait pas au final. Je vais faire l'avocat du diable, l'avocat des producteurs.
Nous sommes deux aujourd'hui.
Après, c'est des producteurs, c'est Hollywood. Oui, on veut toujours gagner de l'argent au final. C'est un business comme un autre, c'est un milieu où il y a beaucoup d'argent. Mais à la fin, je ne pense pas que ça a pénalisé le produit fini, l'entièreté de la série. Ça a marqué une génération, comme on se disait.
Un peu sorties des saisons 3 et 4, c'était dans l'anonymat le plus total, quoi. Tout le monde s'en foutait. Ça a plus autant créé l'événement que la première saison ou la deuxième.
Oui, mais ça c'est pour toutes les
Parce
séries,
que,
je pense.
C'est tu vois, le titre, c'est 13 Reasons Why. Une fois que tu as expliqué les 13 raisons, à quoi bon continuer ?
C'est le problème de la consommation, comme disait Arnaud. On veut toujours plus et à partir du moment où... quand ils ont produit cette émission, est-ce qu'ils savaient que ça allait faire autant fonctionner?
Je pense pas, non.
À mon avis, c'est ça. Ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont tiré en longueur. C'est le problème de toutes les
séries.
Encore,
il faut avoir la bonne idée. Pour la saison 2, le procès lié au suicide de cet élève, c'était une bonne idée.
Non, bien sûr.
Ils ont continué sur cette thématique.
Bien sûr, bien sûr.
Mais après, pour moi, c'est une sortie de route. Est-ce que pour vous, 13 Reasons Why, c'est une série culte? Une série dont on va se souvenir.
C'est une bonne question,
c'est
ça.
C'est une très bonne question, monsieur. Sincèrement,
pour moi, c'est une série qui a marqué une époque. Mais est-ce qu'on s'en souviendra dans 30 ans, 40 ans?
Moi, je pense pas.
Moi non plus.
Elle on n'en parle déjà plus maintenant.
Voilà, mais je pense que c'est une série qui a marqué la plateforme Netflix.
Voilà. C'est ce que j'allais dire. Quand on va parler des programmes original Netflix qui ont marqué l'histoire de la plateforme,
Exactement. Il
y a des chances qu'elle fasse partie du
top
10.
Bien sûr.
Ah, bah ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comme la Casa des Papel.
Oh, c'est même dans le top 5. Ça a marqué en règle même les formes.
Comme
c'est un débat
House of Cards, l'une des grandes séries cultes de
Crown.
Netflix. The Crown aussi, exactement, qui a gagné
Elite.
De nombreux.
Elite,
c'est plus
Emily
après.
Emily in Paris.
Oui, mais c'est des. Mais House of Cards et 13 Reasons
en fait,
Why,
des
c'est
programmes
des...
qui ont permis à Netflix de se lancer en Europe.
Sûr, ouais.
Elle en fait partie, ça c'est sûr.
Ça c'est sûr.
Ouais. Est-ce que vous recommandez 13 Reasons Why à ceux qui nous écoutent?
En tout cas, la première saison, 100%.
Moi, je vous recommande les deux. Après, vous passez votre chemin.
Voilà, exactement.
Moi, je vous recommande toute la série. Il faut pas les écouter. Hein. Mais je recommande toute la série parce que c'est important, comme je dis. Moi,
je rêve ou tu viens de me contredire, là? 5 minutes à l'extérieur du studio.
MDR.
Et je rigole.
Et il a dit MDR.
MDR, là...
Ouais, MDR.
Moi, je le connais.
MDR, ouais. Ouais, mon gars, moi aussi, je me révolte. Ouais.
Vous êtes condamné à perpétuité. MDR.
Mais non, moi, je pense
il a dit Oula, il a dit Oula. Bah, JP.
Ah, Oula, ça marche.
Oula, ça fonctionne.
Non, mais plus sérieusement, je pense que 13 Reasons Why, c'est une façon de s'éduquer à la santé mentale.
Je ne peux pas dire mieux. 13 Reasons Why, une des premières séries originales Netflix qui a marqué l'histoire de la plateforme, diffusée entre 2017 et 2020, 4 saisons, avec dans la première saison Dylan Minnette et Catherine Langford dans les rôles principaux. On vous recommande de la regarder. Faites-vous votre propre avis. C'est ainsi que la séquence C'est arrivé chez Netflix se conclut.
I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended.
Et on enchaîne sans plus attendre avec le conseil de classe de Selena Gomez. Beaucoup de programmes jeunesse ont marqué l'histoire de Disney Channel. Et parmi eux, nous avons Les Sorciers de Waverly Place, qui fut un véritable succès dans les années 2000. Si les téléspectateurs prennent du plaisir à suivre les aventures de la famille Rousseau, la majorité ne regardait que pour son actrice principale, qui fut le crush de millions de jeunes devant leur écran. Habituée des caméras depuis son enfance, cette série lui a permis de percer auprès du grand public. Grâce à son talent, son charme, son naturel, sa présence à l'écran et son exposition sur la chaîne jeunesse la plus puissante, elle est devenue une star du grand et du petit écran, mais surtout une chanteuse qui enchaîne tube sur tube depuis les années 2010. Des singles qui se hissent automatiquement dans le top 10 des meilleures ventes au monde. À l'inverse de certains de ses camarades ayant démarré au club Mickey, elle réussit à garder les pieds sur terre. De la pop adolescente à la dance pop tendance électro, elle a connu une évolution musicale mature sans passer par le trash. Tout lui réussissait à tel point qu'on la considérait comme l'une des icônes les plus importantes de la dernière décennie. Mais derrière ce succès et cette gloire se cachait un profond mal-être. Lorsque ses fans ont appris son internement en hôpital psychiatrique après plusieurs crises et chocs émotionnels, c'est comme si le monde s'était arrêté de tourner. En même temps, quand vous êtes scruté et sous les feux des projecteurs depuis que vous avez 10 ans sans la moindre intimité, comment ne pas être impacté par un milieu aussi exigeant, violent et oppressant? En apprenant qu'elle est atteinte de troubles bipolaires, elle décide de se retirer des réseaux pour faire le point sur son avenir. Après une longue remise en question, elle souhaite que les épreuves qu'elle a traversées servent à sensibiliser le public à la santé mentale. Depuis, la star américaine a transformé ses faiblesses en force. Son expérience personnelle lui permet d'aider cette jeunesse en perdition et en proie au doute. Si elle continue de nous faire rêver au travers de ses œuvres, l'ancienne Alex Russo a fait de la santé mentale son combat. D'ambassadrice Disney à modèle de toute une génération, Selena Gomez a dépassé le statut d'icône pour devenir la porte-parole d'un sujet crucial. Avant de donner vos points, qu'évoque pour vous Selena Gomez? Quel est votre rapport à cette artiste, Maxime?
Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je la considère comme mon premier amour. Non, je rigole, mais dans Les Sorciers de Waverly Place, c'était quelque chose. Encore une fois, je reprends sur ce terme, c'est un effet caméléon. Après, c'est un peu le prototype même de la star hollywoodienne qui s'est touchée à tout. Elle est bonne actrice, elle fait le taf, bonne chanteuse.
D'abord actrice avant d'être chanteuse.
Ouais, voilà, bien sûr. Un petit côté peps. Moi, je l'ai vraiment connue dans Les Sorciers de Waverly Place où elle était rigolote, elle avait ce petit côté malicieux. Puis les glamours, c'est une jolie femme. Donc ouais, voilà, très complète, quoi.
Moi, elle m'évoque Disney Channel quand j'étais petit, les après-midi devant la TV. Et aussi, ça m'évoque une certaine relation avec Justin Bieber. Je sais pas pourquoi, je trouve que...
Oh, elle a eu des relations avec beaucoup de stars du milieu.
Je pense que c'est la plus connue, c'est celle avec Justin Bieber.
Justin Bieber,
il y avait un des Jonas aussi.
Ouais, Jonas Brothers. Oh, ouais,
putain. La rêve de dingue. Mais du coup, Justin Bieber, c'était...
Big Time Rush.
Mais du coup, c'était pendant mon adolescence et ça m'a marqué. C'est ce qu'elle m'évoque, Selena Gomez. Voilà.
Moi, je l'ai connue d'abord sur Disney Channel, mais la période qui m'a le plus marqué, c'était son couple iconique avec Justin Bieber.
Ouais, clairement.
Et après, sa carrière musicale. Et pour moi, elle représente la gentillesse, la bienveillance, avec Taylor Swift aussi. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui n'avaient pas spécialement confiance en elle, qui se sont retrouvées, qui sont reconnues en Selena Gomez et Taylor Swift. Et puis, il y avait ce côté aussi, il y a Taylor Swift et Selena Gomez d'un côté, et puis il y a les sœurs Jenner, les sœurs Kardashian de l'autre côté, les mean girls versus nice girls, you know, kind girls.
Et, yes, yes.
Et du coup, désolé là, je vais
Ok, franglish. Zola.
Franglish. mon franglais. Mais du coup, voilà, oui, c'est une icône générationnelle, hein, Selena Gomez.
Ah, de ouf.
J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a certaines filles qui la comparent à la princesse Diana, donc... Dès qu'il y a une attaque des pics d'une autre célébrité, les fans de Selena Gomez vont l'attaquer sur les réseaux sociaux.
Je savais pas.
On touche pas à Selena, Selena elle est gentille, vous êtes méchante, etc. Et donc il y a tout
ça. Ça veut tout dire.
Ce storytelling.
Ça veut tout dire.
Commençons sans plus attendre avec le premier critère, la carrière. Alors elle est active depuis 2002. Elle a commencé, elle avait 10 ans. Donc 22 ans de carrière pour le moment.
Dingue.
3 albums avec le groupe Selena Gomez and the Scene entre 2009 et 2011. 3 albums solo entre 2013 et 2020. Donc on a Stars Dance, Revival et Rare. C'est 29 singles au total, 7 millions d'albums vendus, 22 millions de singles, 350 récompenses pour 507 nominations. Elle a fait 21 films et parmi les plus connus, on a Spring Breakers avec James Franco, The Big Short, Nos Pires Voisins 2 avec Zac Efron et récemment Emilia Pérez qui va représenter la France aux Oscars. Emilia Pérez est une pépite, c'est un film extraordinaire.
Ouais.
Et Selena Gomez est vraiment surprenante, même si elle a un rôle tertiaire. Franchement, elle sort du lot. Donc ça montre qu'elle a une carrière très intéressante au cinéma, mais également sur le petit écran, puisqu'elle a fait 8 films d'animation, 5 téléfilms et 13 séries. Évidemment, il y a Les Sorciers de Waverly Place et la dernière en date qui cartonne sur Disney+, c'est Only Murders in the Building, avec Steve Martin, entre autres. Donc, pour la carrière, combien vous donnez ? Mathis.
J'ai calculé, t'as dit 80 mots à son éloge, du coup, ce sera un 8 sur 10.
Incroyable, waouh, je suis... stupéfait. Maxime.
Écoute, je vais aussi te stupéfixer. Petit lien avec Harry Potter, désolé. Oui, petit 8 sur 10 pour rejoindre mon petit Mathis.
Je vais mettre 8 sur 10 aussi parce que, franchement, pour 32 ans, elle a quand même énormément d'accomplissements. Mais si on doit comparer à d'autres stars de la pop, c'est quand même en dessous d'une Taylor Swift.
Ouais.
Taylor Swift est dans un autre monde. Mais Selena Gomez n'a peut-être pas l'ambition faire la même carrière que Taylor Swift. Je pense qu'avec ce qu'elle a traversé, elle a peut-être envie d'être plus tranquille. Mais franchement, pour 32 ans, c'est incroyable.
Et ouais.
Je lui donnerais 8 aussi, parce que je respecte son parcours qu'elle a réalisé. Et puis récemment, elle est devenue milliardaire.
Ouais.
Du coup,
elle a une marque de vêtements, il me semble, une marque de parfum. C'est une entrepreneuse.
Il
faudrait vérifier si elle n'a pas une marque de maquillage. De
cosmétique. Aussi.
Voilà, cosmétique. Donc non, moi, je respecte sa carrière, bien sûr. 8 pour la carrière.
Second critère, ne perdons pas de temps, le talent, le style, la personnalité, Selena Gomez. On a déjà parlé un peu de cette gentillesse, cette bienveillance qu'elle dégageait, mais qu'est-ce que vous avez envie de rajouter d'autre ?
Mais qu'elle est talentueuse, c'est ce qui me vient directement à l'esprit. C'est voilà, comme je le disais, c'était cet effet caméléon. On l'a vue très jeune sur les écrans. Elle arrivait directement à prendre le public de par justement sa gentillesse, on l'a dit, son charisme aussi. Elle a ensuite fait des thématiques un peu plus sombres où elle a montré vraiment un talent d'actrice pure et puis des chansons qui restent en tête. Donc moi, je vais mettre un 8,5 sur 10.
C'est une enfant Disney.
Ouais,
qui s'en est pas mal sorti quand on voit les stars qui sont sorties à l'époque.
Ah, Lindsay Lohan.
Et du coup, ce sera un 7 sur 10 pour ma part.
Moins généreux que moi, Mathis.
Oui.
Moi, pour la personnalité, je mettrais 9,5. J'ai dit qu'elle était bienveillante et qu'elle était gentille et qu'elle représentait des valeurs positives. Mais elle est aussi et surtout talentueuse. Et c'est pour ça qu'elle est reconnue pour son métier, pour ce qu'elle a fait. C'est un enfant Disney, mais qui a su et qui a pu s'émanciper de cette carte-là.
On ne lui parle plus du tout maintenant de Disney. Enfin, si, évidemment, ceux qui ont grandi avec vont parler des sorciers de Waverly Place, mais c'est tout, quoi. Elle a réussi à s'échapper, comme Miley Cyrus d'ailleurs.
Elle a su s'émanciper de ce rôle-là, de ce personnage-là, pour s'affirmer en tant que Selena Gomez. Elle utilise sa plateforme, son statut, pour justement véhiculer un message de paix, d'amour, tout ça. Et ça, je respecte.
Moi, je mets la note de 9 sur 10. Déjà, je trouve qu'elle incarne super bien son époque en termes musical. En termes de pop, je trouve que c'est bien. C'est pas un truc que je kiffe, je sais pas se taper le cul par terre, mais en tout cas, elle le fait super bien, c'est entraînant. Et je vais dire un truc, je suis peut-être à côté de la plaque, mais ce que j'aime chez elle, c'est sa simplicité. Pour moi, elle a l'air tellement simple que limite, n'importe qui entre nous quatre peut être pote avec elle.
Justement,
genre, tu peux parler avec
moi.
elle.
Ce sera moi.
Ce sera toi ?
Oui.
On la touche pas. On peut pas.
On peut pas.
On peut pas. Sinon, Boy Thunder. On peut pas. Non, mais c'est intéressant. Elle a su réussir dans un monde violent qu'est le monde du show business. En fait.
Ah, de dingue.
Surtout à Hollywood.
Et garder cette simplicité, surtout.
Et garder cette simplicité, cette gentillesse. Elle n'a pas besoin d'être méchante pour réussir ou pour s'imposer et vouloir les rôles qu'elle veut. Il y a une phrase qui reprend un peu la personne qu'elle est, c'est « kill them with kindness ». Genre, ça veut dire « tue-les avec ta gentillesse ». Selena Gomez représente ça. Elle n'a pas besoin d'autre chose pour s'affirmer en tant que femme.
On passe au troisième critère et pas des moindres, l'influence. Alors, avant de vous donner la parole, quelques chiffres par rapport à sa présence sur les réseaux sociaux. On commence avec le réseau social dont tout le monde se fout, Facebook. 88 millions d'abonnés pour Facebook.
C'est énorme.
C'est quand même énorme.
C'est dingue.
Sur X, c'est 65,8 millions de personnes qui la suivent. Sur TikTok, 58,2 millions.
Oh, étonnant.
Pour TikTok, c'est quand même beaucoup, non ?
C'est énorme.
C'est beaucoup, mais pour Selena Gomez, je trouve que c'est pas beaucoup.
Non, moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. 58 millions, c'est... sur TikTok, il y a eu Facebook, après, il y a eu Instagram. Oh, et ensuite.
J'aurais pas dit qu'elle a eu.
Oui.
Enfin, quoique, c'est vrai qu'elle est de la génération Facebook, en fait. Quand
voilà,
bah oui,
c'est ça.
Bah oui,
c'est clairement
coup,
ça.
Il faut
qu'elle
voir...
a 20 ans de carrière.
En vrai, pour une star de 32 ans, avoir ce nombre d'abonnés sur TikTok, c'est vraiment pas mal, quoi. Même Will Smith a réussi à en avoir, je crois, une histoire de 45 millions, okay, un peu plus. Sur YouTube, c'est 34,8 millions d'abonnés pour 388 vidéos. Elle a quand même engendré 14,2 milliards de vues avec ses clips.
C'est énorme.
Et enfin, Instagram, c'est le chiffre le plus impressionnant. Elle rentre dans le top 10 des personnalités les plus suivies. 424 millions de followers.
C'est faramineux.
Alors évidemment, qui dit complètement crazy dit émission spéciale sur la santé mentale. Et c'est peut-être l'artiste qui représente le mieux ce sujet. Car comme j'ai pu le dire en intro, elle a vécu des choses pas faciles. Elle a été internée en hôpital psychiatrique. Elle a été diagnostiquée bipolaire. Elle sensibilise à ce sujet. Elle a fait un documentaire sur ce qu'elle a traversé qui s'appelle « My Mind and Me ». Elle a créé une plateforme du nom de Wondermind qui est dédiée au sujet. Si vous avez des questions en lien avec la santé mentale, vous pouvez trouver des réponses sur cette plateforme. Et elle fait régulièrement des récoltes de fonds. Donc, c'est une personne qui est impliquée, qui ne fait pas semblant. Ce n'est pas « je prends une cause comme porte-étendard pour bien me faire voir ». Pas du tout, ce n'est pas son cas. Donc, par rapport à l'influence, combien vous donnez ?
Bah, écoute, tu as vu les chiffres que tu as lâchés. Je pense qu'il n'y a pas d'autre note que 10. Elle est omniprésente sur tous les réseaux sociaux.
Je suis d'accord, je mets 10.
Donc, il n'y a pas d'autre note possible.
Moi, ce sera un 9. Et
il
n'y
a pas d'autre note possible.
Non, le 9 parce que son TikTok ne m'impressionne pas. Voilà, je le dis, j'ose le dire. Ses chiffres TikTok sont un peu nuls.
T'as combien d'abonnés, toi, sur TikTok ?
50. Après, je ne suis pas très TikToker. Donc, voilà.
Oh mon Dieu, j'ai envie de te raqueter.
Mais moi je donnerais 10 parce que justement elle utilise son statut social, son statut de star pour des causes honorables, respectables comme la santé mentale. Elle essaye d'aider un maximum de jeunes filles, de jeunes garçons aussi.
D'ailleurs, vous étiez au courant de tout ce qu'elle a traversé par rapport à ses problèmes
entendu aussi. Elle a même des problèmes de santé au niveau de la peau, physique aussi. Elle fait du mieux qu'elle peut pour s'en sortir et pour sensibiliser les autres. Et c'est pour ça que je donne un 10 parce que bon, elle a beaucoup de jeunes.
Est-ce que vous comprenez que la médiatisation autour de son internement ait pu être un sujet pour les médias ? Que ça ait pu intéresser, que ça ait fait
bien
la
sûr,
une.
Bien sûr, à partir du moment où t'es le grand public, que t'es l'égérie presque de notre génération en termes féminins, tout ce qui a trait à toi, tout ce qui te touche, va automatiquement
toucher
le grand public.
Et surtout, quand t'es une star hollywoodienne, si tu communiques pas sur ta santé physique ou ta santé mentale, les gens comprennent pas. Étant donné que le bien-être de nos idoles, c'est important parce qu'on s'identifie à eux. Et j'ai remarqué qu'on attend tous un commentaire ou quelque chose de la part de notre star préférée. Et je peux prendre un exemple, c'était Jamie Foxx.
Il a été hospitalisé
pendant quelques temps. Mais il y avait un flou pendant quelques semaines. Et du coup, tout le monde trouvait ça bizarre. Comme si c'était naturel qu'ils prennent la parole et qu'ils rassurent tout le monde, ça va. Même si c'était pas grave, hein, même si c'était pas dramatique, on attend toujours d'être rassuré parce que on crée un lien indirect, inconscient, avec la personne qu'on admire, qu'on idolâtre.
Ça en dit long sur ce qu'est devenu la société, quand même.
Ouais, peut-être c'est triste. Mais après, bon, il y a des gens qui vont toujours trop loin, il y a toujours des excès dans tous les domaines, ça c'est sûr. Mais Selena Gomez, c'est une icône générationnelle. Et beaucoup de jeunes s'identifient, même plus jeunes ou moins jeunes.
Est-ce que si la santé mentale est devenue un sujet aujourd'hui pour les nouvelles générations, est-ce grâce en partie à Selena Gomez ?
Mais bien sûr.
Bonne question.
Mais bien sûr, parce qu'il y a toujours des gens qui vont être les avant-gardistes d'une cause ou d'un mouvement. Quand tu as un réel impact, je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Parce qu'il y a, ouais. y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient hein, aussi.
Et d'ailleurs, Selena Gomez n'a pas peur de prendre la parole sur des sujets très chaud. Le conflit israélo-palestinien, elle n'a pas hésité à donner son soutien, à montrer son soutien à la population palestinienne.
Hein. C'est vrai, elle était parmi les signataires des stars hollywoodiennes qui étaient pour la paix, pour un ceasefire. Et puis, ça a été repris sur toutes les pages Instagram de toutes les stars. Il y avait des co-signataires, et puis il y avait Omar Sy, il y avait Selena. Si tu prends la parole le premier et que tu sais que tu as une plateforme et que les gens te suivent, ça peut changer les choses et ça peut faire évoluer les choses.
Inutile de demander si on va se souvenir de Selena Gomez.
Ah oui.
Pas la peine de demander si elle est culte.
Unanimité. Hein.
Mais par contre, est-ce qu'elle est aussi culte qu'une Taylor Swift ou une Miley Cyrus ?
Oui, mais moi, je vais te dire un truc. Parce que Taylor Swift, est-ce qu'elle est culte pour sa carrière ou pour la personne qu'elle est ?
Les deux, je dirais.
Les deux.
Et Selena Gomez, alors ?
La personne qu'elle est aussi.
Ouais, ça, c'est intéressant. Parce que en fait, moi je l'ai remarqué.
My man. C'est vraiment tonton aujourd'hui.
Ouais, mais ça change pas quoi. Mais non, mais moi, Selena Gomez, oui, c'est unanime quoi.
Mais après, est-ce qu'on se souvient de toi essentiellement pour la personnalité ou aussi pour les faits marquants dans tes disciplines que tu fais ? Je veux dire, par exemple, tu peux être un grand joueur de tennis, on va se souvenir de toi parce que tu es un grand joueur de tennis, on va pas se souvenir de toi parce que tu prenais part ou pour des causes ou pour des choses comme ça.
Et moi, je pense qu'elle a plus marqué la jeunesse. Non, ce serait un peu... Oui, Taylor Swift, franchement, elle a l'influence qu'elle a sur la jeunesse américaine. C'est-à-dire, elle dit mondiale. Oui, votez pour Kamala, tout le monde va voter pour Kamala.
Elle a changé la donne des élections législatives.
Il va y avoir une explosion d'inscrits sur les listes électorales. Juste parce que Taylor Swift a pris la parole.
Bien sûr.
Mais justement, c'est la même chose pour Selena Gomez. Elle n'a pas le même impact, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Quoi.
Et enfin, le ressenti personnel. Maxime.
Écoute, comme je l'ai dit, voilà, moi, ça a été mon premier crush à la télé. Tu vois, c'était une fille que j'adorais, j'idolâtrais, que j'ai toujours suivie donc, maintenant depuis 20 ans. Donc, ouais, moi, je pense que je vais mettre 10.
Bien.
Vraiment, c'est genre vraiment un gros kiff pour elle.
Selena Gomez, c'est une personne que j'apprécie, mais sans plus. Du coup, ce sera un petit 7 sur 10.
Mmh. Arnaud ?
Moi, je dirais 10 parce que j'ai eu l'occasion de l'avoir évolué en tant que femme, en tant que jeune fille, et de devenir adulte, avec sa période de Justin Bieber, son couple. Donc, je l'ai vu évoluer, on l'a vu évoluer sous nos yeux. Donc oui, moi, je dirais 10 parce qu'elle a marqué une génération et que... Elle continue de le faire et que c'est une bonne personne, quoi.
Moi, je mets la note de 9 sur 10. Je la trouve très touchante et j'aime beaucoup la personne qu'elle est. Le fait d'être restée simple malgré le milieu oppressant que peut être Hollywood parfois, voire même toujours. Et avec toutes nos notes, Selena Gomez a récolté la moyenne de 8,8 sur 10. Très bonne note pour cet artiste pop. C'est ainsi que le conseil de classe de Selena Gomez se conclut dans Complètement Crazy.
Selena, how much time do we have left?
I don't know. With a good diet and exercise, maybe 10, 12 years.